Il est 8h22.
France Inter. Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-9.
Et avec Léa Salamé, nous sommes heureux, très heureux de recevoir ce matin un écrivain, voyageur, esprit libre et un photographe, photographe animalier, mais pas seulement. Quelqu'un qui en tout cas voit plus que nous tous. Il publie deux livres qui n'en font qu'un. La Panthère des Neiges chez Gallimard et Tibet Minéral Animal aux éditions Cobalan. Sylvain Tesson, Vincent Munier, bonjour.
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 Et merci d'être... au micro d'Inter, de retour du Tibet, merci pour vos livres, ils nous ont retourné, Léa et moi, pas le cœur, ça c'est fréquent, non, ils nous ont retourné la tête en nous permettant d'accéder à une dimension de la vie, de la nature, dont on ne soupçonnait même pas l'existence. Tout part d'une quête, vous êtes partis tous les deux sur les traces d'un animal mythique, la panthère des neiges, il n'en reste que quelques milliers sur Terre. Expliquez-nous pourquoi avoir entamé cette quête, qu'est-ce qui vous fait partir au Tibet à la recherche de cet animal? Et pourquoi elle, Sylvain Tesson?
Mais en réalité, ça fait 30 ans que Vincent Munier, qui est un photographe mondialement reconnu et diffusé, s'intéresse à toutes les présences d'animaux en sursis sur la planète. Il s'est spécialisé dans les grands carnassiers, les grands fauves, les grands félins, qui vivent dans des territoires extrêmement hostiles, du nord ou de la montagne. Et il m'a fait une proposition il y a... un an et demi, une espèce d'invitation incroyable, comme quand on vous invite à dîner, ben lui il m'a invité à aller rencontrer une bête dont je ne soupçonnais même pas l'existence parce que je croyais qu'elle avait disparu, qui est la panthère des neiges, et qui vit entre 4000 et 5000 mètres d'altitude dans la grande zone de la Haute Asie, qui va grosso modo de l'Afghanistan au Tibet et de la Mongolie à l'Himalaya. Alors moi, je n'ai pas pu résister. Je lui ai dit oui et il m'a fait connaître deux choses, qu'il y avait beaucoup plus de bêtes qu'on ne le croyait qui nous regardaient, et que deuxièmement, il y avait une technique pour les connaître, pour les voir et pour les rencontrer qui s'appelle l'affût.
Et vous allez nous raconter ce que c'est que l'affût, ce que ça représente pour vous et pourquoi est-ce que c'est évidemment un récit d'aventure mais aussi une expérience mystique. On va y venir. Mais d'abord, emmenez-nous avec vous, Vincent Munier. On parle de quoi? Vous êtes rentré du Tibet hier, hein. Vous êtes encore complètement perché. On parle de moins 25 degrés, de la difficulté à respirer, du silence aussi, j'imagine. Il se passe quoi? On voit quoi là où vous étiez hier à la même heure?
Tellement de choses, c'est vrai que le contraste est rude. Ça fait 30 ans, j'ai l'impression d'être très vieux quand tu dis ça, Sylvain, mais que je balade mes objectifs pour essayer de tenter à montrer le beau. Et là, ça me fait plaisir que vous soyez séduit par ce livre, parce que des fois, je suis complètement un peu démuni en me disant ça suffit pas. On a tellement été nombreux à montrer la beauté de la nature, et puis on voit, fait est dit, que ça ne suffit pas. Donc, mais malgré tout, je continue, je résiste, et j'ai toujours cette envie de... ouais, d'essayer de séduire, d'émouvoir par le beau. Et pourquoi ces endroits-là, ces pôles? C'est, je crois, la recherche d'endroits où la nature n'a encore pas été maîtrisée, apprivoisée, elle n'a pas été gérée, parce que c'est... En France, parfois, j'ai une sensation de je suffoque. Et donc là, là-bas, si haut, on se sent respirer.
Oui, alors ce que Munier a raison, on s'installe dans un territoire qui vous paraît tout à fait lugubre et fantomatique. On est à 4000 mètres d'altitude, parfois à 5000, on n'arrive pas à respirer, on a mal à la tête. Mais tous ces problèmes, tous ces désagréments physiques disparaissent. Absolument. Parce qu'il y a l'espérance et la possibilité que quelque chose apparaisse. Alors qu'il fasse froid, qu'il fasse moins 50, que vous ayez les doigts qui commencent à gercer, les lèvres explosées par les ultraviolets, ben vous en fichez.
Et précisément, après une longue attente, ce fut comme une apparition. La voilà. Quel sentiment éprouvez-vous quand vous voyez la panthère pour la première fois? De la joie, de la sidération, de l'extase, du respect, de l'humilité, vous éprouvez quoi?
Mais un sentiment quasi spirituel. C'est pour ça d'ailleurs que c'est pas tout à fait, j'avais pas l'impression de commettre un abus de langage en utilisant un vocabulaire religieux et en disant qu'elle apparaissait. Munier m'avait dit, on s'était installé dans des rocailles, on devait être à 4500 mètres d'altitude, il m'a dit peut-être qu'elle passera ici, parce qu'il y a un vallon qui correspond à ces zones de passage, parce qu'il connaît très bien, l'affût c'est une connaissance des comportements de la bête, et tout à coup on l'a vu. C'était le crépuscule, il y avait une falaise, elle était couchée, et tout à coup votre œil, votre cerveau ne comprend pas ce que votre œil voit. C'est-à-dire que moi, je ne pensais pas voir une panthère des neiges. Et tout à coup, mon œil a regardé une panthère avant que mon cerveau comprenne que je la voyais. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'apparition sacrée. Tout à coup, cette bête, qui est très en sursis, on pense qu'il en reste entre 4 et 5 000 spécimens répartis dans toute la Haute-Asie, tout à coup, cette bête était là, devant nous, et elle nous prouve, enfin, moi, ça m'a prouvé une chose dont j'avais l'intuition, mais que je n'avais jamais eu l'occasion de comprendre de manière incarnée et matérielle, c'est que cette réalité extraordinaire du monde, cette présence de la vie dans ces formes tellement mystérieuses, tellement étonnantes, tellement inconnues, tout est là, sous nos yeux, et la panthère, c'est la réalité, qui veut surtout pas être augmentée, qui veut simplement être préservée.
Vous dites cette phrase énigmatique à ce moment-là, vous écrivez « C'était le plus beau jour de ma vie depuis que j'étais mort. Mmh. Depuis que j'étais mort, c'est le plus beau jour de ma vie depuis que j'étais mort. » Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase, Sylvain Tesson ?
Mais c'est-à-dire que cette vision de la panthère m'a, contrairement à ce que je croyais, m'a provoqué beaucoup de choses en moi, à révéler, à faire remonter, à faire revenir à la surface de, à la fois de ma mémoire et de ce qui peut me servir d'esprit, à faire venir des présences que j'avais profondément enfouies en moi-même, des êtres très chers qui avaient disparu, des êtres qui m'avaient quitté. Ça s'appelle, c'est très banal ce que je dis, ça s'appelle les tourments de la vie, les tourments ordinaires de la vie. Et puis tout à coup, la vision d'une bête qui semble descendue du ciel, qui semble apparue de la terre, qui semble sortie de la montagne, tout à coup, vous ramène au plus profond de vous-même. Mmh. C'est-à-dire que voir ces bêtes qui appartiennent à un très très vieil âge, tout à fait immémorial, mais qui est en train de disparaître, c'est une rencontre avec soi-même. C'est un miroir, l'animal.
Mais c'est vertigineux.
Oui, il y a un phénomène vertigineux. Oui, vous avez raison. Il y a quelque chose qui nous dit, vous vous trompez. Vous vous trompez, parce que vous passez vos vies, enfin moi c'est ce que je me suis dit, on passe sa vie dans l'agitation, dans le manque d'attention aux choses qui nous sont offertes en partage sous nos yeux, dans une indiscrétion totale et dans un vacarme effroyable, alors que le fait de pratiquer l'affût, de se mettre dans les rochers et de faire tout le contraire des réflexes de nos vies, c'est-à-dire d'être attentif, d'être discret, d'être silencieux, d'être patient, tout à coup ça vous révèle, ça fait jaillir des choses qui vous emplissent.
Oui, pour vous c'est une épiphanie, c'est mystique, c'est métaphysique, mais alors elle, la panthère, quand elle vous voit, elle bâille, elle s'étire, elle vous tourne le dos, elle disparaît, Vincent Munier. Ça s'appelle un vent monumental.
Absolument, mais tant mieux, parce que souvent on me demande si j'ai des relations, si c'est il y a une communication entre l'animal et moi, entre le sujet et moi, mais pas du tout. Ça, j'essaye de. Mon but premier, c'est mon père qui m'a appris ça, qui est naturaliste, c'est d'arriver sur la pointe des pieds, d'être le plus discret possible, donc de pas interagir entre l'animal et moi, et c'est comme ça qu'on a des merveilles de comportement, des merveilles de lumière, enfin tout est, et c'est d'être le plus caché, le plus retiré possible. Je crois que c'est la règle d'être le discret.
Sylvain Tesson dit que vous lui avez appris à voir. Il dit qu'il a parcouru le monde pendant 25 ans sans déceler plus de 10% de ce que vous, Vincent, vous parvenez à voir. Apprenez-nous à voir. Comment on apprend à regarder ?
Ouais, c'est une question de temps, comme tu le disais, Sylvain, et c'est vrai. Et j'étais un petit peu un peu inquiet à l'idée d'emmener Sylvain, parce qu'il
a
la bougeotte quand même. Et c'est une force physique incroyable. Et il a une envie, et on le voyait au tout début. Il partait devant. Quand on arrive en limite de crête, souvent, moi, j'y arrive à plat ventre. Je fais très attention et j'y vais avec les jumelles. Sylvain, c'est dû sûrement à sa passion de l'alpinisme, arrive un peu en conquérant sur le haut de la crête. Mais non, ça, c'est juste impossible au Tibet, parce que derrière la crête, il peut y avoir la panthère qui est couchée ou d'autres. Donc tout ça, il a fallu un tout petit peu, une petite mise au point, mais ça a été très très rapide. Après, j'étais agréablement surpris de voir un Sylvain Tesson discret, vraiment à l'écoute, en train de besogneux. Il écrivait énormément et attentif.
Et voilà. Pas un grand yak méchant et sauvage, Sylvain Tesson.
Oui, ou un éléphant dans un magasin de porcelaine.
Oui, voilà.
C'est ça que vous apprend l'affût. C'est ça que l'affût apprend à l'homme. C'est d'abord à se dire qu'on est beaucoup plus regardé qu'on ne le pensait. On est scruté, on est épié, on est surveillé. On est comme sous surveillance. On rentre dans un jardin très froid, un jardin très dur, qui est le plateau tibétain. Et en fait, on est épié par des centaines d'yeux qui vous regardent, comme si vous étiez dans un tableau et vous ne soupçonnez rien. Mais si vous accordez un peu de patience à la nature qui est devant vous, alors des choses apparaîtront. Et ça sera très romanesque. Ça sera parfois tragique, parce que c'est la vie et la mort qui sont mêlées. Tous les animaux sont à la fois des proies et des bourreaux. Tous cherchent à tuer pour survivre, mais ils tuent dans leur nécessité. Et puis, il y aura parfois des comédies. Parfois, c'est drôle. On voit des bêtes, des oiseaux qui se chamaillent. Il y a même un corbeau qui chamaille une panthère. Enfin, on a vraiment l'impression que la nature devant vos yeux peut jouer une tragédie ou une comédie.
Mais comment vous avez fait pour mettre pause, pour vous arrêter, vous qui êtes effectivement frénétique, qui passez votre temps à voyager, à bouger, qui avez besoin, qui est un impatient au fond. Comment vous avez fait pour accepter d'arrêter, de vous arrêter?
Ben, au début, c'était difficile, mais ça finit par être une leçon. Et puis, moi, j'aime bien tout de même l'idée que la vie se passe par chapitres et parfois on corrige les penchants qu'on a pris. Je trouve que c'est important, la métamorphose. C'est quelque chose d'ailleurs de tout à fait naturel. Il y a des saisons de la vie. Il y a une saison adolescente. Enfin, c'est banal ce que je dis, mais il y a un printemps, puis il y a un été. Alors là, je suis peut-être dans l'hiver, enfin, je sais pas. Mais quand, de toute façon, quand il fait, je vais vous dire une chose, il y a un déterminisme naturel. Quand il fait -40 et que vous êtes à 4000, 5000 mètres d'altitude, essoufflé dans la rocaille, alors à ce moment-là, vous êtes assez content de faire une pause. Mmh. Cela dit, au bout d'un moment, mes mauvais penchants frénétiques me reprenaient. Parce que c'est vrai qu'au bout de 48 heures, quand il y a simplement un lapin qui est passé à 800 mètres, il faut vraiment une vie intérieure pour supporter de passer encore 48 heures à attendre.
Je vous pose la question, Sylvain Tesson, comme Léa l'a fait à Vincent Munier, quel conseil vous nous donnez à nous, pauvres urbains connectés, pour apprendre à attendre?
Non, mais j'ai aucun conseil à donner, ça fait le type qui descend de sa montagne du Tibet,
c'est
qui,
pas faux, en même
rempli
temps
de sagesse et éclairé par la lumière bouddhique, viendrait expliquer... le seul conseil que je me donne à moi-même, ouais, c'est que je suis un produit de mon siècle, je suis un produit de mon pays, je suis un produit de ma ville, je suis un urbain du 21e siècle d'un pays développé. Donc quelle est ma modalité de vie? C'est tout de suite. C'est ça notre vie, c'est ça que nous propose notre modernité. Tout de suite. Vous voulez quelque chose? Il ne faut pas que vous attendiez le plus vite possible, le plus haut débit possible, la plus grande connexion possible, la plus grande réactivité possible. Et tout à coup, Munier me dit, on va se mettre dans les rochers et il n'y aura peut-être rien, jamais. Eh bien, je trouve que le peut-être rien jamais, ça vous ouvre un intervalle d'espérance, peut-être, et d'accomplissement sûrement, de retournement sur vous-même. Et tout à coup, s'il y a une apparition, alors là, c'est extraordinaire, il y a un rapport proportionnel immense entre ce qui vous est donné à voir, un yak sauvage, un ours, une bête, un oiseau, un charognard parfois, un vautour, et le temps que vous aurez attendu à le faire venir. Mais tout ça peut se vivre. L'affût, vous n'êtes pas besoin d'aller à 5000 mètres au Tibet pour vivre cette espèce de récompense, de l'espoir. Tout ça peut se vivre au pied d'un chêne de l'île de France.
Vous dites que le problème de l'homme moderne aujourd'hui, c'est de vouloir tout de suite, d'être impatient et d'être incapable de choisir. Il veut tout, il veut le « et en même temps », vous écrivez. Il rêve de l'en même temps, mais l'en même temps n'est pas biologiquement possible, ni psychologiquement souhaitable, ni politiquement tenable. Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Mais non, c'est-à-dire que l'animal est enfermé, est déterminé dans son gène. L'herbivore vit le yak sauvage, il a beau être très fort, il est déterminé par la nécessité de trouver... une énergie dans un aliment très pauvre, qui est l'herbe sèche, brûlée d'ultraviolet. Et donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit passer toute sa journée, 12 heures, 13 heures, 14 heures par jour, l'encolure baissée, à brouter.
Et l'homme?
Comment?
L'homme?
Eh bien, l'homme, lui, il veut tout. L'homme, c'est pas un être privé d'instinct, l'homme. Au contraire, c'est un homme qui a tous les instincts possibles. C'est ce truc qui peut nous paraître très excitant, qui s'appelle le champ des possibles, qui fait qu'on peut tout faire. On peut tout vouloir. On peut vouloir être frénétique ou vouloir être apaisé. On peut vouloir être sage ou on peut vouloir être fou. On peut vouloir avoir un grand appétit d'ogre ou au contraire être extrêmement sobre. Mais tout ça fait que on est indéterminé. Et c'est pour ça qu'on est tous dingues. Et l'animal est là, il repose dans sa souveraineté. Les uns sont des carnassiers, les autres sont des herbivores, les troisièmes sont des oiseaux, les quatrièmes sont des rampants. Et tout ça est une organisation d'une beauté, d'un ordre, d'une harmonie et d'un équilibre magnifique. Il ne faut pas être naïf, c'est la dureté, c'est la loi du plus fort, c'est la souffrance souvent, c'est le meurtre, c'est parfois la razzia. Parfois on a vu un jeune yak qui semblait tout à fait émerveillé de vivre dans les alpages et qui s'est fait sauter sur l'encolure par la panthère. Alors voilà, c'est aussi une dialectique du croc et de la mort, sauf que tout ça se fait dans sa nécessité, avec un cadre, et l'animal n'est jamais un psychopathe.
Vincent Munier, il n'y a qu'une seule photo de vous dans le livre de Sylvain Tesson. A priori, quand on regarde cette photo, c'est la photo d'un oiseau et ça n'est que 6 mois après, en travaillant l'image, que vous y découvrez la panthère. Vous ne l'aviez pas vue. Et c'est absolument vertigineux parce que quand on la voit, on ne la voit pas. Quand elle est là, elle ne se révèle pas. Déjà, comme photographe, qu'est-ce que ça fait de voir surgir la réalité de sa propre image?
C'est assez rare, mais en même temps, ça fait beaucoup de bien. Donc là, une fois de plus, c'est la panthère qui a gagné, parce que on se sent tellement badaud quand on est humain là-bas dans ce genre de milieu. Elle règne sur son domaine, et là, c'est toujours ce sentiment d'humilité qui me fait du bien, de se sentir un peu proie. Et là, c'est tout à fait ça. Elle était là, je l'ai vue disparaître, s'évanouir dans les rochers, et je fais juste cette photo d'un faucon qui vient se poser sur un rocher, un faucon cresserelle comme ceux qu'on avait sur Notre-Dame. Et deux mois après, en effet, je regarde cette image et je vois juste les yeux de la panthère le long de la paroi qui m'observe. Deux mois après, j'en avais vraiment la chair de poule. Une fois de plus, ça montre à quel point ils ont ce sentiment de... On a toujours tendance à être les dominants et de maîtriser tout. Et là, non, on se sent tout à fait... Ce sentiment d'être proie, pour moi, est extrêmement précieux.
Elle est la... Pardon. Allez-y, Léa. Elle est la métaphore de quoi, la panthère, selon vous, Sylvain Tesson?
Elle est la métaphore de l'invisibilité, de l'évanescence, de la fugacité, de la fulgurance, parce que quand elle chasse, ça fait beaucoup de métaphores tout de même, ça fait beaucoup de vertus. Quand elle ne chasse pas par le sprint, elle ne court pas après ses bêtes comme pourrait faire le léopard d'Afrique dans la savane, elle se cache et tout à coup elle saute sur la proie. Donc elle est la métaphore d'une espèce d'adaptation extraordinaire au milieu le plus hostile qui est, c'est-à-dire les très hautes altitudes continentales, très froides, moins 40 l'hiver et très peu d'oxygène, elle passe jusqu'à 5000 mètres, et elle s'est adaptée absolument fantastiquement. On pourrait dire que c'est une espèce d'incarnation parfaite du principe carnassier, de tuerie. Mais il faut pas s'arrêter là, parce que sinon on en fait une arme de destruction massive, ce qu'elle n'est pas. Elle est sertie. Comme on dit qu'un diamant est serti dans une couronne, elle est sertie parfaitement dans un milieu où normalement il ne devrait pas y avoir trop la vie. Pourtant elle est là, elle règne. C'est une impératrice. Alors tout ce que je dis, ça fait une espèce de naïveté lyrique et romantique de Parisien qui va voir des bêtes se déplacer, qui a l'impression d'être dans un jardin médiéval. Mais je vous assure que quand on la voit se déplacer, on est quand même saisi. Cette espèce de grâce, de force absolue. Et puis tout à coup, elle vous regarde, vous croisez ses yeux. Et vous vous apercevez qu'en fait, je ne sais pas ce qu'elle se dit, mais il y a comme un mépris. Elle vous dit, on s'est séparés, on ne tient plus une conversation commune, c'est fini la mythologie du cousinage des bêtes et des hommes, et de notre espèce de vie où nous parlions, vous autres les humains, quand vous parliez à la nature, tout ça est fini. Il y a eu une rupture, on s'est séparés, et maintenant, nous ne vous demandons qu'une chose, nous autres panthères, foutez-nous la paix.
Ouais, il y a tout ça dans ce livre. Il faut le dire aux auditeurs qui nous écoutent ce matin. Ce n'est pas uniquement deux hommes à la recherche d'une panthère. Il y a effectivement une quête spirituelle. Il y a un plaidoyer pour la nature et pour ce que nous, hommes, pour y gâter, faisons de cette nature. Il y a, on va dire, si on devait résumer, il y a une forme de plaidoyer pour l'écologie, mais c'est bien plus que ça, une quête spirituelle. Et puis, Sylvain Tesson, il y a aussi la métaphore. Nicolas, vous demandez, c'était la métaphore de quoi? C'est aussi la métaphore, en ce qui vous concerne, à vous, d'une femme. Vous dites, je désirais une panthère, j'avais mes raisons, elles étaient intimes. La panthère, c'est une femme, et précisément, c'est votre mère, Sylvain Tesson. C'est ce qu'on lit et qu'on comprend, en tout cas, en lisant ce livre, qui est très très beau et très renversant. C'est votre mère qui a disparu récemment. C'est aussi ça, l'apparition et l'attente que vous espérez à travers la panthère.
Oui, il y avait peut-être une naïveté enfantine. Ma mère avait une tête de chat, et quand j'ai vu cette panthère, je l'avais perdue il n'y a pas très longtemps auparavant, et il m'a semblé qu'elle m'apparaissait. Mais je crois que c'est quelque chose d'assez ordinaire, c'est-à-dire quand vous avez en vous de grands chagrins, de grands deuils, on cherche sa consolation comme on peut, et l'une des consolations qu'on peut trouver parfois, c'est de voir la forme du défunt, de l'être qui vous manque, de l'absent, dans quelque chose qui apparaît dans le monde des formes. Et bien moi, je ne sais pas pourquoi, ça a été cette rencontre de la panthère qui tout à coup a ramené à ma mémoire comme une présence, ma mère. Tout ça, évidemment, quand c'est dit comme
c'est
ça...
C'est la mère du lionceau à laquelle vous dédiez votre livre.
C'est une autre mère. Il y a les mères qui sont absentes, et puis il y a des mères qui sont qui viennent d'avoir des enfants, et des mères qu'on a aimées. Il y a en fait des fantômes, il y a des trous en nous. Enfin, je vais pas commencer à me plaindre, parce que tout le monde navigue avec ses gouffres, et puis soudain, quelque chose remplit le gouffre, calme, console la douleur, et je crois que la rencontre qu'on peut faire avec une bête, c'est-à-dire, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que c'est l'altérité absolue, la bête. Parce que vous comprenez, quand vous vous intéressez aux hommes, aussi lointains soient-ils, quelle que soit leur culture, même si leur culture est tout à fait antipodique de la vôtre, mais ce sont des hommes. C'est du corporatisme, quoi. C'est du syndicalisme humaniste. On est des hommes, alors évidemment, on s'intéresse à nos semblables. Mais si vous voulez vraiment l'altérité, faut pas aller rencontrer l'autre homme. Faut aller rencontrer ce qui n'est pas humain. C'est-à-dire ces bêtes. Or, elles sont en sursis, elles sont fragiles, elles sont menacées. Et quand elles apparaissent, c'est normal que vous voyiez vos propres faiblesses surgir à vos yeux.
Clémence est en ligne au standard de France Inter. Bonjour et bienvenue, vous avez la parole.
Bonjour, vous m'entendez bien ?
Parfaitement bien.
Parfait. Ben, d'abord, je vous remercie pour la qualité de votre matinale. Donc, ma question est en fait, est-ce que vous portez vraiment un message écologiste dans votre démarche autour de la panthère ? Et est-ce que vous ne pensez pas que c'est un peu antagoniste d'aller comme ça dans des milieux qui ne sont pas anthropisés ? Est-ce que vous n'avez pas peur que ça donne envie de générer plus de tourisme et que justement ça aille vraiment à l'encontre de votre démarche écologiste ?
Merci Clémence pour cette question qui revient très souvent au standard ce matin. Vincent Munier, comment y répondez-vous ?
Ouais, c'est une excellente question que je me pose depuis quelques années. Et c'est un paradoxe, complètement. C'est un paradoxe de montrer, en effet, des endroits qui sont pas du tout anthropisés, comme vous le dites, et qui peut y avoir un écotourisme ou un tourisme un petit peu qui pourrait porter
préjudice
un petit peu à ces animaux. Oui, alors là, c'est moi, je suis en pleine mutation un petit peu à ce niveau-là. C'est vrai que je, même au niveau des voyages, c'est vrai que c'est aussi un paradoxe de prendre un avion, de traverser l'Eurasie pour aller aussi loin. Pour quelle raison ? Comme le disait Sylvain, on peut avoir aussi des émotions tout aussi fortes dans nos forêts de France. Alors là, oui, je sais que moi, je réduis énormément mes voyages. Je prends un avion par an, désormais, j'essaye de réduire pour essayer d'être assez cohérent. Mais en même temps, je sens ce qui m'anime à continuer ce métier, parce que sinon, il faudrait que je l'arrête. C'est le retour qu'il peut y avoir des enfants ou des par rapport à toutes ces aventures, toutes ces animaux que je photographie, toute cette beauté qui nous manque finalement, dont on doit se nourrir malgré tout. Donc c'est ce qui me... J'essaye de trouver un équilibre, ce qui n'est pas évident.
Sylvain Tesson, vous écrivez que cet affût, cette attente de la panthère est un antidote à l'épilepsie moderne. Ce livre est un livre profondément conservateur, mais attention, ne sursautez pas derrière le poste. C'est un conservateur au sens qui n'est pas politique aujourd'hui. C'est un livre pour la conservation de notre nature et de notre monde. C'est ça aussi.
Oui, c'est tout à coup le constat que... il nous est donné dans l'intervalle de nos vies, il nous est donné en partage. Il est offert à notre attention un monde extraordinairement complexe et d'un raffinement biologique inouï. On ne peut pas imaginer toute la délicatesse de cette marquetterie du vivant.
Et un miracle, dites-vous.
Oui, c'est une forme de miracle. On peut avoir l'impression que tous ces termes d'apparition, de vision sacrée, de miracle, de dimension spirituelle, que je suis devenu Bernadette Soubirous dans sa grotte de Lourdes en train de voir arriver la Vierge avec un manteau de fourrure, mais c'est pas tellement ça. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'il y a une telle qualité tout à fait incompréhensible à l'esprit de cet aménagement de la vie dans toutes les strates de la géographie, que en fait on devrait être dans la dévotion de ce miracle de vivant, et surtout pas ni avoir envie d'aller sur Mars, ni avoir envie de rejoindre la vie éternelle, ni avoir envie de changer le monde pour apporter une solution humaine, ni avoir envie de la virtualité de la Silicon Valley. Ça suffit, les chimères, les illusions suffisent. On a le réel et on n'est pas foutu de le conserver. On est dans le plus beau musée et nous sommes les pires conservateurs. C'est affreux, c'est ça que la panthère nous dit. C'est calmez-vous, cessez de vouloir les lendemains. Occupez-vous de conserver cet extraordinaire joyau qui s'appelle Le Monde.
Quel livre, hein ? Quel livre, Léa ? Mmh. La Panthère des Neiges de Sylvain Tesson est publié chez Gallimard. Quel livre, là encore ? Quel livre aussi ? Le livre de vos photos, Vincent Munier, avec Sylvain Tesson aussi. Tibet, minéral, animal, est publié aux éditions Cobalan. C'est un livre d'art. Je ne sais même pas comment il est fabriqué.
Ouais, on est resté ce matin, on est resté à regarder scotché. Photo par photo, vos photos. C'est merci à tous les deux.
Merci.
Vraiment.
Merci beaucoup. Merci.